Merveilleux moment que nous venons de passer dans la présence de Dieu. J'aimerais saluer, oh vous êtes nombreux ce matin, c'est bon de voir autant de monde. Est-ce que vous pouvez nous faire un coucou ce matin, faire un coucou à votre frère, faire un coucou à votre sœur qui est à côté de vous, alléluia. Oh God, vous êtes beau, vous êtes merveilleux, je vois des sourires, il y en a qui sont contents d'être en présentiel ce matin. Alléluia, je vois Vladimir au fond, ça fait vraiment un bail qu'on s'est vu. Soyez bénis ce matin. Alléluia, alléluia. J'aimerais que l'on puisse prier les uns pour les autres. Vous allez prier pour la personne qui est à côté de vous, hein, pour ne pas trop nous déplacer. Si vous êtes mari et femme, vous allez prier mari et femme, frère et sœur, sœur et sœur, Audrey et Naomi vont prier l'une pour eux. Et c'est ça, nous allons prier les uns pour les autres, demander vraiment. J'ai bien aimé les paroles du chant que Yami chantait tout à l'heure. Rends-moi passionné pour ce que tu es. Vraiment que ça soit votre prière maintenant pour votre frère, votre sœur, qu'il soit passionné pour ce que Dieu est. Prions le Seigneur, prie également pour sa restauration, sa guérison, s'il est frappé d'une maladie ou d'une faiblesse physique, que Dieu soit manifesté dans son corps maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont ici présents, Seigneur. Nous croyons, Père, que tu les as appelés, Seigneur, que tu les as équipés. Nous voulons, Père, ce matin, que tu puisses pleinement, pleinement œuvrer en eux. Rends-les passionnés pour ce que tu es. Rends tes enfants passionnés pour ce que tu es. Seigneur, que toute forme de limitation dans la vie de tes enfants soit brisée ce matin, Seigneur. Toute forme de limitation physique, toute forme de limitation liée à la maladie, toute forme de limitation, Seigneur, ce matin, est brisée. Tout joug étranger est brisé ce matin sur la vie de tes enfants. Seigneur, nous le proclamons au nom de Jésus, parce que tu nous as dit au nom de Jésus, nous prions pour les malades et les malades seront guéris. Nous prions maintenant même que les corps soient restaurés, que les corps soient restaurés, que des cancers tombent maintenant au nom de Jésus, que les cancers tombent, Seigneur, que les sinusites tombent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, maintenant même agis dans les corps. Agis dans les corps, transforme, guéris, restaure, vivifie, raffermis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans une église évangélique. Quand on dit Amen, on répond Amen. 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 Je n'arrête pas tant que vous ne dites pas Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous sommes une église vivante. Alléluia. Quand on dit Amen, les murs doivent trembler. Quand on dit Amen, l'enfer doit trembler. Quand tu dis Amen, tu prends possession de ton héritage. Quand tu dis Amen, Amen, tu dis Amen à la parole de Dieu. Pendant que je vais parler, quand tu vas dire Amen, tu te dis, cette parole, je la saisis pour ma vie, je la saisis pour ma famille, je la saisis pour moi au nom de Jésus. Et il en sera ici. Amen. Amen. Soyez bénis. C'est bon d'être dans la maison de Dieu, surtout dans un été aussi beau. Hein, il y a le soleil dehors, on peut aller pique-niquer, on peut se balader. Dieu est bon. Hein. Dieu est vraiment bon. La communion fraternelle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup être avec les frères, avec les sœurs. Vous regardez louer le Seigneur, vous le regardez adorer Dieu. C'est vraiment quelque chose qui me vivifie et qui me donne la force d'avancer. Alléluia. Dieu me donne le privilège ce matin de parler de sa part. Parler de la part de Dieu est toujours quelque chose d'assez délicat. Parce que lorsque l'on parle de la part de Dieu, on doit trouver des mots justes. On doit trouver la parole juste, la parole à propos, ce que Dieu veut pour ses enfants. Et ça, ce n'est pas évident. Il faut vraiment chercher le cœur de Dieu. Il faut prier, il faut saisir ce que Dieu veut dire dans l'esprit à son peuple. Et ce matin, je crois fermement que ce que Dieu a déposé dans mon cœur est pour vous. Et pour vous, et pour cette église, et pour ceux qui fréquentent le Carrefour des Nations. Le Carrefour des Nations, c'est une église affiliée aux Assemblées de Dieu, aux Assemblées de Pentecôte du Canada, les APDC. C'est une église pentecôtiste, évangélique et tout ce que vous voulez. Mais surtout, c'est une église qui vise, qui soupire après le fait d'expérimenter Dieu. expérimenter Dieu. Nous avons été dans des églises traditionnelles. Moi, personnellement, j'ai été dans une église traditionnelle. Une église traditionnelle dans laquelle il y avait des rites, il y avait des coutumes, il y avait des sermons, il y avait des façons de faire. Mais je n'avais jamais expérimenté Dieu. Expérimenter Dieu, ça va au-delà de la simple lettre, le fait de lire la parole de Dieu. Ça va au-delà du fait d'aller simplement à l'église. Ça veut dire que Dieu vient dans ta vie. Dieu vient dans ton environnement. Dieu vient s'installer dans ta famille, dans ton cœur. Dieu vient régner dans ton cœur et te donner la paix. J'espère que vous l'avez expérimenté aussi. J'espère que vous l'avez expérimenté. Dans les temps que nous traversions actuellement à l'église et dans toutes les églises de la région, je pense que Dieu cherche des hommes et des femmes. Dieu cherche des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui le servent. Qui le servent. Qui le servent. J'ai bien aimé et je ne me suis pas concerté avec Yamilet dans la composition de ses chants ce matin. Mais lorsqu'elle a dit « Rends-moi passionné pour ce que tu aimes. Laisse-moi bâtir ma vie sur ton amour. Aide-moi à aimer comme Jésus aime. » C'est des choses qui ont résonné dans mon cœur. Mes bien-aimés, Dieu cherche un peuple qui se distingue par sa fidélité à aimer Dieu, sa fidélité à le servir, sa fidélité à être là où Dieu est, et sa fidélité à réaliser les rêves de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a des rêves? Dieu a des rêves et il veut les accomplir. Il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche, quelqu'un qui peut utiliser pour sa gloire. Mes bien-aimés, servir le Seigneur, c'est la meilleure chose que tout croyant peut faire. Tout croyant. Dieu ne nous a pas appelés à être des chrétiens qui viennent tous les dimanches s'asseoir dans une église, écouter des sermons. C'est bien, mes bien-aimés, de venir communier avec des frères et sœurs, venir dans la présence de Dieu, être rempli, mais pour un but, c'est pour aller, pour servir le Seigneur, là où on est, au cégep, là où on est, dans nos professions, là où on doit servir le Seigneur. Et plus encore, on doit s'impliquer dans l'église. Moi, personnellement, je rêve d'une église où tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre. Une église où chacun de nous trouve quoi faire. C'est une église où c'est le pasteur qui fait tout, mes bien-aimés. Ce n'est pas une église selon Dieu. Une église où le pasteur, c'est lui qui fait tout. Ce n'est pas une église selon Dieu. Dieu veut que le corps soit en mouvement. Et ce matin, je vais vous parler de « Sers le Seigneur, sois fidèle et reste à ton poste ». C'est ça le titre de mon message ce matin. « Sers le Seigneur, sois fidèle, reste à ton poste ». Le royaume de Dieu doit prendre place dans les vies, mes bien-aimés. Le royaume de Dieu doit prendre place dans l'église. Le royaume de Dieu que nous représentons doit se mettre en mouvement. Et chaque membre du corps que nous sommes, que nous représentons, doit remplir pleinement sa fonction, doit remplir pleinement sa fonction. Vous voyez le corps humain. Nous avons un corps, nous avons la tête, nous avons les mains, nous avons les pieds, nous avons un cœur, nous avons les reins. Mais imaginez que un membre de notre corps ne fonctionne pas. Moi, personnellement, il suffit qu'un petit ongle de mon orteil soit bizarre, je serai mal à l'aise, je serai de mauvaise humeur parce que j'ai un petit ongle qui fait mal, mes bien-aimés. Lorsque tout le corps est en œuvre, lorsque tout le corps travaille convenablement, la vie de Dieu se manifeste. Dieu peut réaliser son œuvre. Ce matin, j'aimerais nous inciter non seulement à plus de fidélité dans notre communion avec Jésus, comme on l'a fait durant tout ce moment d'adoration, mais aussi à plus d'implication dans le service de Dieu. À plus d'implication dans le service de Dieu. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui nous visitent ce matin. Déjà, je vous salue. Si vous vous visitez et que vous êtes là pour les vacances, je vous salue. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais servez le Seigneur là où Dieu vous a placé, dans votre église. Si vous êtes de passage, ce message peut être également pour vous. Mais ce message est surtout pour ceux qui ont décidé de faire du Carrefour des Nations leur église et qui ont décidé d'appartenir à cette famille. J'aimerais te dire ce matin, sers le Seigneur. Implique-toi pleinement. Implique-toi, avance avec Dieu et sers-le. Avant de commencer pleinement à développer mon message, permettez-moi d'abord de célébrer tous ceux qui payent le prix pour que l'œuvre de Dieu avance dans cette église. Ils sont ici dimanche après dimanche, à permettre qu'il y ait la vidéo, à permettre qu'il y ait le multimédia, à permettre que le son soit convenable en ligne. Toutes ces personnes qui prennent un temps les samedis matins pour venir pratiquer, pour venir faire en sorte que nos cultes le matin soient convenables. J'aimerais vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite cette année, qu'année après année vous soyez bénis. Trouvez dans ces quelques mots un encouragement. Votre couronne sera grande dans les cieux et certainement Dieu se souviendra de vous dans vos défis quotidiens. Notre Dieu est un Dieu qui honore toujours la fidélité dans le service. Le psaume 4, verset 4 dit ceci: le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le psaume 18, 26 dit ceci: qu'avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Dieu se montre fidèle avec celui qui est fidèle. Le proverbe 28, 20 dit ceci: un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mes bien-aimés, soyez célébrés ce matin pour votre fidélité. Je pense à Philippe, je pense à Grace, je pense à Patricia, je pense à Yamile, je pense à tous ses frères, à toutes ses sœurs, à Jean-Claude qui n'est pas ici ce matin, tous ces hommes et ces femmes qui, depuis que nous sommes confinés, ont fait en sorte que la parole de Dieu nous soit accessible, que les cultes nous soient accessibles. C'était un défi, mais Dieu les a utilisés. Et j'aimerais inciter ceux qui ne se sentent pas encore libres de servir le Seigneur, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se sentent coincés à faire le pas pour servir pleinement le Seigneur, j'aimerais vous aider ce matin à comprendre c'est quoi le service de Dieu, c'est quoi rendre un service à Dieu ce matin. Donc nous aurons à voir, si j'ai le temps, nous aurons à voir trois points. Le premier point sera: en quoi consiste le service que l'on rend à Dieu. Deuxièmement, nous allons essayer ensemble de définir c'est quoi être fidèle dans la maison de Dieu. Et pour finir, troisièmement, je vais insister sur le fait de rester à son poste de service. Donc nous aurons trois points ce matin que j'aimerais voir avec vous. Alors, en quoi consiste le service que l'on rend à Dieu ? Le service que l'on rend à Dieu consiste à mettre au service des autres, de l'Église, de la communauté, les dons et les talents que nous avons reçus de Dieu. Chacun de nous a reçu un don, une capacité, une façon de faire, une expertise venant de Dieu. Et j'ai pas envie de dire que c'est un péché, mais il est important que nous mettions à la disposition des autres ce que nous avons reçu de Dieu. Comme le souligne Rick Warren, Dieu vous a donné des capacités, des dons, des talents pour vous permettre de gagner votre vie, mais aussi de le servir. Dieu vous a permis d'aller à l'école, de développer une expertise, non seulement pour gagner votre vie, mais également pour le servir. Pour le servir. Dieu veut que tu le serves. Il y a une des définitions que j'ai appréciées. Souvent, je vais sur les réseaux sociaux, je vois les discussions que les frères ont souvent sur certains sujets. Et bizarrement, cette semaine, il y a des sœurs qui discutaient de ce thème-là, du service de Dieu. Et une a dit à l'autre: mais explique-nous, tu parles de servir Dieu, mais c'est quoi servir Dieu? Et j'ai bien aimé la définition que la sœur a donnée. Elle a dit: servir Dieu, c'est avoir une vie qui est profitable à Dieu. C'est avoir une vie qui est profitable à Dieu, une vie qui sert aux intérêts de Dieu. Par cette définition, on peut comprendre beaucoup de choses. On peut comprendre beaucoup de choses. La sœur a continué, elle a dit: un chrétien peut être assidu au rituel religieux sans que sa vie soit profitable aux intérêts de Dieu. C'est venu dans mon cœur, ça fait un boom. Un chrétien peut vivre dans les rituels religieux. Il peut venir à l'église, il peut faire tous les rituels possibles sans que sa vie serve aux intérêts de Dieu, sans que sa vie serve aux rêves de Dieu. Nous mettons tellement d'énergie à chercher notre gain. Des frères, il y a des frères que je connais qui multiplient un travail, deux travails, quatre travaux parce qu'ils cherchent à gagner leur vie. Ils cherchent à boire le lait, le miel du Canada pleinement. C'est bien, c'est une bonne chose que de mettre sa famille à l'aise. Mais bien aimé, ça ne sert à rien si Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'est pas au centre de ta vie, si Dieu n'est pas au centre de ton travail, si Dieu n'est pas au centre de ce que tu accomplis, notre vie doit servir à Dieu. Pour comprendre un peu plus cette parole, j'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu 25, du verset 14 à 30, c'est la parabole des talents. Nous allons essayer ensemble de prendre quelques perles, quelques pensées au travers de cette parabole des talents. Je la lis dans la version français courant. Matthieu 25, 14, 30. Il en sera comme de quelqu'un qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Dieu vous a donné selon vos capacités, vos talents. Puis il partit en voyage. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 5 autres pièces d'or. De même, celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Il régla ses comptes avec eux. Oh, ça me touche, je n'avais pas lu ça. Il régla les comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant, « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres. Les voici. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Retenez-le. Tu es digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. On va revenir là-dessus. Tu es digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Le serviteur qui avait reçu 200 pièces s'approcha ensuite et dit, Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. J'en ai gagné 200 autres. Les voici. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre parenthèses, le terme fidèle est toujours avec le... C'est comme si c'était des amis proches, bon et fidèle. C'est toujours ensemble, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit, « Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. » Tu aurais dû placer mon argent à la banque. Hein? Tu aurais placé mon argent à la banque. C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé de faire du commerce comme les autres. Tu pouvais juste mettre l'argent à la banque. Ça demande juste le déplacement à la banque. Ou bien pour ceux qui ont Internet, ça dépend simplement de cliquer et de virer de l'argent. Hein? Tu pouvais mettre mon argent simplement à la banque. Comme tu savais que j'étais dur. Et verset 28, « Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-lui à celui qui en a 1000, car à celui qui a, on donnera davantage, à celui, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans l'obscurité du dehors, là où l'on pleure et grince des dents, qu'il n'en soit pas ici pour toi au nom de Jésus, qu'il n'en soit pas ainsi. Quand vous lisez cette parole, vous vous rendez compte de plusieurs choses. Je vais insister sur deux, principalement, je pense, deux ou plus trois. Premièrement, celui qui a reçu moins de son maître, celui qui a reçu moins de son maître, cache ce qu'il a reçu, alors que la logique veut qu'il soit le premier à faire valoir ce qu'il a reçu pour avoir plus. La logique veut que lorsque tu as reçu un peu, tu veux fructifier ça pour que ça soit plus. Mais il n'a pas obéi à cette logique. Il va plutôt cacher ce qu'il a reçu. Pourquoi ? Parce qu'il a peur. La Bible dit qu'il a peur d'engager, de s'engager. Il a peur d'engager ce qu'il a reçu pour le fructifier. Il a peur de s'engager pour le faire valoir et réjouir le cœur de son maître. Il a peur. Et nous savons tous que la peur est la sœur de l'incrédulité. La peur est la sœur de l'incrédulité. Ce serviteur manque de foi. Ce serviteur manque de foi. Sa vision approximative du roi l'empêche d'agir. Va le limiter dans sa capacité à faire valoir ce qu'il a reçu de son maître. Deuxièmement, ceux qui ont reçu un peu plus de leur maître ont cette particularité d'avoir donné de l'importance, d'avoir pris au sérieux ce qu'on leur a confié, aussi simple que cela pourrait paraître. L'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, est souvent bafouée parmi les gens, bafouée parmi les hommes du monde. Quand je dis à mes collègues, parce que je suis à l'université, quand je dis à mes collègues, à mes amis, que je sers le Seigneur, c'est comme si tu étais dévalué à leurs yeux. Servir Dieu, c'est comme, ce n'est pas la page. Quand je dis servir Dieu, je ne dis pas être pasteur. Hein. Je ne dis pas que vous devez maintenant chanter. Ce n'est pas ça. Servir Dieu, c'est autre chose. C'est mettre ce que Dieu t'a donné comme expertise à sa disposition. Si Dieu t'a donné la capacité d'être un bon comptable, que tu permets de bien régler les chiffres, que tu permets de bien régler les comptes, mes bien-aimés, ce talent que tu as reçu, tu dois le mettre à la disposition des autres. Tu dois le mettre à la disposition de l'Église pour que l'Église avance dans ses défis. Servir Dieu, c'est beaucoup d'autres choses. Beaucoup viennent ici les samedis matins pour nettoyer l'église. Et quand tu les vois, c'est des frères, c'est des sœurs qui sont médecins. Il y a un frère qui est médecin, mais qui vient samedi ici à l'église pour nettoyer. Mais bien, mais il trouve ce temps où de venir à l'église, nettoyer les samedis, de nettoyer là où vous allez vous asseoir. Il veut servir le Seigneur. Peu importe ce qu'il fait dans le séculier, il veut donner un petit peu de son temps pour Dieu. Il veut donner un petit peu de son temps. Il y a des frères et sœurs qui vont visiter les autres. En ces temps de pandémie, je connais un qui allait au balcon des maisons des gens, en dessous du balcon. Il ne pouvait pas entrer dans les maisons, mais il se mettait en dessous pour dire « Coucou, coucou, je suis là, soyez bénis, on est ensemble, tiens ferme, ça ira ». Mes bien-aimés, ces frères sont des bénédictions pour nous. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils servent le Seigneur. Ceux qui vont dans les hôpitaux pour encourager ces personnes qui sont malades, pour leur dire, vous pouvez vous en sortir, vous allez être guéris, qui prient pour eux, c'est des personnes qui servent le Seigneur. Servir le Seigneur peut se faire de manière multiforme, mes bien-aimés. Je ne parle pas seulement du fait de s'impliquer à l'église. Ça va au-delà de cela. Ce qui est important, c'est de mettre à la disposition des autres ce que tu as reçu. De ne pas le mettre en terre. Ceux qui ont reçu beaucoup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fructifié, ils ont pris en considération ce que le maître leur a donné. Et ils ont décidé de faire du commerce pour faire fructifier cela. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le commerce un jour. Moi et mon épouse, on a essayé, on a tenté de faire du commerce dans notre pays d'origine. Elle a ouvert une petite boutique où on vendait des habits, des chaussures, etc. On voulait fructifier ce qu'on avait. Et donc, on a tenté cette expérience de faire du commerce. Mais mes bien-aimés, pour avoir un bénéfice, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Tu viens tous les jours. Tu es là assis, tu attends que les gens rentrent dans ta boutique, mais ils passent. Tu attends que les gens rentrent, ils passent. Et puis un vient quand même un jour, il vient demander, ça coûte combien? Et puis il repart. Tu pries, tu dis, Seigneur, mais il faut que quelque chose se passe. Qu'est-ce que j'ai investi là-dedans? Mais ces gens qui ont reçu beaucoup de l'or, mais ils ont décidé de l'investir, de faire du commerce. Ça veut dire qu'ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps pour acheter leurs marchandises. Ils ont pris du temps pour la mettre en valeur, pour la vendre et pour avoir le même montant que ce que le maître leur a donné. C'est du travail, c'est de la persévérance, c'est de l'endurance. Il y a des jours où ils ne voyaient rien, mais ils persévéraient. Ils persévéraient. Cela demande la patience que de fructifier ce qu'on a donné. Mais comme ils tenaient à réjouir le cœur de leur maître, ils étaient prêts à ce sacrifice. Ils voulaient réjouir le cœur de leur maître. Ce n'était pas pour leur satisfaction personnelle. Ce qu'ils ont reçu, ils l'ont redonné. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour le maître qui voulait le faire valoir. Pouvons-nous être comme ses serviteurs, fidèles, en mobilisant notre énergie dans la promotion de ce qui ne nous appartient pas, mais qui appartient au maître? Pouvons-nous déployer notre énergie, mes bien-aimés? Ce qui appartient au maître semble tellement insignifiant pour le monde. Ça semble n'avoir aucune importance pour le monde par rapport à nos autres activités. Mais le désir de Dieu est que nous puissions, autant que nous le pouvons, nous investir pour bénir les gens, visiter un frère dans le besoin, balayer l'église, aider l'église dans la comptabilité, s'impliquer dans la vidéo, proposer ses services dans des activités de tous ordres, des choses qui semblent tellement insignifiantes, mais que Dieu veut utiliser pour sa gloire, faire valoir ce que nous avons. C'est une grâce. À une rencontre avec l'équipe de louange, j'avais dit à mes frères et sœurs qui font de la louange que je leur ai fait savoir que Joseph, dont on a parlé la semaine dernière, Joseph a eu un rêve, c'est vrai. Mais vous savez, le rêve de Joseph, le but du rêve de Joseph, est-ce que vous connaissez le but de son rêve? C'est vrai que dans son rêve, il a vu que c'est lui qui gouvernait, c'est lui qui était au-dessus. Mais le but de son rêve, ce n'était pas qu'il soit au-dessus. Le but de son rêve, c'était de réaliser le rêve de Dieu. Et le rêve de Dieu, c'était quoi? Le rêve de Dieu, c'était que Jacob, avec qui il a fait une alliance, il a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu avait choisi Abraham et il lui a fait des promesses. Il a dit que c'était par sa postérité que Dieu allait bénir les nations. Et Joseph avait été choisi par Dieu pour réaliser le rêve de Dieu. Jacob ne pouvait pas mourir de famine. Il ne devait pas mourir de famine. Son rêve, le rêve de Dieu, devait se manifester au travers du rêve que Joseph a eu. Le rêve de Joseph, ce n'était pas pour son élévation. C'était pour le rêve de Dieu. Dieu voulait sauver Jacob. Le rêve que Dieu a déposé sur la vie de Joseph ne consistait pas d'abord à rendre son nom grand. On veut tous avoir un nom grand. On veut avoir le nom en haut de l'affiche. Mais avoir le nom au-dessus, avoir un poste élevé, n'est pas le but. C'est pas ça le but, mais c'est le moyen que Dieu utilise pour manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un, dans la vie de son peuple. La position de Joseph en Égypte n'était pas le but de sa vie. C'était le moyen que Dieu utilisait, la voie utilisée par Dieu pour atteindre un objectif clair, la survie de Jacob et de sa famille. Son rêve était lié à la survie de son peuple. Mes bien-aimés, ton rêve, ce que tu fais, doit être lié à la survie de ton peuple, à l'avancée du royaume de Dieu, aux intérêts de Dieu. L'exercice de tes talents, l'exercice des talents d'administrateur que Joseph avait en Égypte, et devait profiter, c'est vrai, en Égypte, devait profiter à Pharaon, mais c'était pas ça le but. Le but de l'exercice de ce talent d'administrateur en arrière-plan, c'était qu'il devait aider, il devait servir d'abord aux intérêts de Dieu. Mes bien-aimés, travaillons, et c'est ça mon premier point, travaillons à l'avancée du royaume de Dieu. Essayons autant que nous pouvons de réaliser les rêves de Dieu. Dieu a mis en vous des capacités qui doivent vous aider à gagner votre vie, mais cela doit faire avancer les intérêts de Dieu, qui sont de sauver, de guérir, de restaurer cette génération perdue. Vous devez mettre au service de Dieu ce que vous avez. Pensez-y. Deuxième point, l'importance de la fidélité dans le service. C'est quoi la fidélité? La fidélité est un attachement à ses devoirs, à ses affections. C'est la régularité à remplir ses engagements. C'est la qualité de quelqu'un qui est constant, constant. Retenez le mot constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. La fidélité fait partie de la nature de Dieu. Nous savons tous que Dieu est un Dieu fidèle. Nous, on aime la fidélité de Dieu. Parce que quand il nous dit une parole, il accomplit certainement. Il est un Dieu fidèle. Dieu, la fidélité fait partie de sa nature. Même quand nous, on est fidèle, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Il ne peut pas renier sa nature. Il est fidèle. Quand Dieu commence une œuvre, il ne s'arrête pas en chemin. Il est fidèle, mes bien-aimés. La fidélité fait aussi partie, c'est un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans la mesure où la fidélité est un fruit de l'esprit, ça veut dire quoi? Sa production, son épanouissement dans nos vies va dépendre de notre communion avec le Saint-Esprit. C'est quand tu es en communion avec le Saint-Esprit que Dieu te donne la capacité d'utiliser ce qu'il t'a donné pour le service du corps. Ça me donne dans l'esprit, ça me donne l'histoire d'Ananias. Ananias qui vient prier pour Paul, un Saul de Tarse qui vient d'être converti. Ananias, c'est un inconnu dans la parole de Dieu, mais c'était un disciple de Dieu qui avait reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu. Et quand Dieu lui a dit « va prier », pour Saul, parce que je vais l'utiliser pour ma gloire. Il n'a pas cherché à se donner une justification. Il s'est levé, malgré le fait qu'il pouvait perdre sa vie. Il ne s'est pas sûr que Paul était converti. Et Paul était en chemin de Damas pour aller mater les chrétiens. Il n'était pas sûr que celui-ci était converti. Mais parce qu'il était en communion avec le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit « va prier pour lui ». Parce que je vais l'utiliser pour ma gloire. Et il est parti. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui travaille notre cœur et nous rend capable de manifester ce don merveilleux. Nous devons donc apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit, apprendre à mettre au service du corps ce que nous avons reçu de Dieu. Pourquoi appelle-t-on, à votre avis, les membres des églises, pourquoi on les appelle fidèles? Pourquoi on nous appelle tous des fidèles dans une église? Oh, tu es fidèle. On n'est pas d'abord fidèle d'un homme. Hein. On n'est pas fidèle d'un homme. On est fidèle de Dieu. On nous dit qu'on est fidèle simplement parce que la fidélité, c'est une des qualités que nous avons en Christ. C'est une vertu que nous avons en Christ. C'est notre identité en Christ, la fidélité. Si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas un homme fidèle, mon bien-aimé, connecte-toi à Dieu. Si tu as de la misère à être fidèle, fidèle à ta femme, fidèle à ton conjoint, si tu as les regards baladeurs, prie le Seigneur afin qu'il te donne la capacité d'être fidèle. La fidélité, c'est d'abord dans le cœur. C'est un cœur fidèle que Dieu veut. La fidélité, ce n'est pas d'abord une attitude, c'est un état de cœur. Notre fidélité commence dans les petites choses, mes bien-aimés. J'ai bien aimé une citation que j'ai lue quelque part, et ça va peut-être un peu bousculer les adolescents ici. Quelqu'un écrit « Nombreux sont les adolescents qui descendent dans les rues pour sauver la planète, mais qui refusent de ranger leur chambre. » J'ai bien aimé cette citation-là. Plusieurs adolescents actuellement, il y a des adolescents qui luttent pour la planète. « Oh, la planète, le réchauffement climatique !» Mais quand on leur dit « Allez ranger votre chambre », ça ne les tente pas, ça ne les tente pas. Si vous avez des ados, vous connaissez la chose. Moi, j'en ai deux, bon, j'ai des adultes, mais j'ai deux ados actuellement. Et je vous dis, la seule chose qu'ils connaissent comme terme, c'est « non ». Est-ce que tu veux manger ? Non. Est-ce que tu veux aller te balader ? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi ? C'est difficile, c'est difficile. Donc il y a des gens, on est toujours zélé à vouloir faire des grandes choses. Il y a des campagnes d'évangélisation, on veut y aller. Il y a des grands meetings, on veut y aller. Il y a des grandes choses, on veut y aller. Mais quand c'est les petites choses, on met le frein à main. On met le frein. On va à reculons. Est-ce qu'il faut vraiment que je quitte mon lit le samedi matin? C'est dur. Souvent, les grands serviteurs de Dieu ne sont pas ceux que l'on croit. Ce n'est pas ceux qui ont les grands followers sur les réseaux sociaux qui sont les grands hommes de Dieu. Il y a une histoire qui m'a touché. Dans une église, c'est mon épouse qui aime la raconter. Souvent, je ne sais pas raconter les histoires, mais cette histoire m'a touché. Un prophète est venu prophétiser dans une église que le pasteur de cette église va mourir. Le pasteur va mourir. Et puis, bon, on se disait, mais comment l'homme de Dieu va mourir? C'est qui? Comment il peut venir parler comme ça? Bon, en tout cas, et puis un temps a essayé d'écouler, et un frère dans l'église est mort. Un frère, il était toujours au fond, avec un carnet, il notait. Il était au fond de l'église. On ne le connaissait pas. Et il est mort. Bon, on avait oublié la prophétie, on n'était pas conscient de ce que Dieu avait déclaré. Mais quand on est allé chez lui, on a vu son cahier. On a vu les prières qu'il faisait pour chaque membre de l'église. Il priait jour après jour pour chaque membre. Il est présenté à Dieu. Mais bien aimé, le pasteur de l'église, ce n'était pas celui qui était devant. C'était celui qui était à l'arrière là-bas. Il priait pour le peuple. Il est présenté à Dieu. Il intercédait pour eux. Il payait le prix pour eux. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas être spectateur dans l'église. Le dernier point, l'importance de rester à son poste de service. Pour argumenter autour de ce point, j'aimerais lire avec vous Esther, chapitre 2, du verset 19 à 22. Dans Esther, on nous présente le personnage de Mardoché. On ne va peut-être pas lire en détail cette histoire, mais c'est une histoire intéressante pour nous ce matin pour comprendre pourquoi on doit rester à notre poste et servir Dieu fidèlement. Esther chapitre 2, du verset 19 à 22. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes de seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter main sur le roi d'Assyrus. Mardoché eut connaissance de la chose en informant la reine Esther, qui le rendit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Esther, Esther c'est cette jeune fille juive. Nous sommes ici en déportation, les Juifs sont en déportation à Babylone. Nous avons une jeune fille qui est choisie parce que la reine Vachi, la femme du roi, a quelque peu manqué de respect au roi et le roi a décidé de la répudier. Donc il faut aller chercher une autre reine et donc ses serviteurs sont allés au milieu du peuple pour choisir des jeunes filles. Et Esther a été choisie pour être la nouvelle reine. Et Mardoché, c'était qui? Mardoché, c'était son père adoptif. Mais c'était son cousin, mais il a finalement été son père adoptif parce que ses parents étaient décédés. Mardoché avait décidé d'adopter cette jeune fille qui était sa cousine. Donc, Mardoché, comme nous venons de lire, se présente comme un juif qui travaillait à la cour du roi nommé Assyrus et dont la fonction était simplement d'être à la porte du roi. Il était à la porte du roi. La porte du roi était un endroit stratégique du palais où il fallait entrer pour avoir accès à la présence de Dieu. On n'entrait pas n'importe comment dans la présence de Dieu, sinon c'était au péril de ta vie. Et son travail, c'était son rôle exact. C'est vrai qu'on le, on le dit pas dans la parole, on ne dit pas pourquoi il était à la porte du roi, mais on sait une chose, le rôle, on sait que Mardochée était assis à la porte du roi et que probablement il surveillait ce que Esther allait devenir. Il avait peur probablement pour elle, donc il voulait suivre ce que Esther allait devenir à la porte du roi. Mais on peut aussi se dire qu'il devait surveiller les allées et venues dans le palais aussi. Et comme il était assis à la porte du roi, fidèle à son poste, Mardochée a eu connaissance d'un complot contre le roi d'Assyrus. Il va en informer la reine Esther, qui va en parler au roi, et le complot va être déjoué. Cette information de l'acte de bravoure de Mardochée va être consignée dans les livres, mais à la suite de cela, on ne lui donne aucune récompense. On ne lui dit rien du tout. On sait simplement qu'il a fait un acte merveilleux que de dénoncer ce complot. On ne l'a pas remercié. On ne lui a pas dit « Merci Mardochée pour ce que tu as fait ». Rien du tout. Il n'a pas été remercié. Mais ce que l'on sait simplement, c'est que ce qu'il a fait a été consigné dans un livre. Mardochée ne s'est pas impatienté d'être récompensé à cause de ce qu'il a fait ou que le roi ou que les conseillers viennent à le remercier. Non, il a continué à être fidèle à son poste, à la porte du roi. À cause de son intégrité à la porte du roi, il va même refuser toute forme de compromis. Il était conscient de son identité. Vous le verrez dans Esther 3, verset 2. Pendant que certains fléchissaient le genou devant Aman, un conseiller du roi qui voulait que l'on fléchisse le genou devant lui, Mardochée a refusé de fléchir le genou devant ce Aman parce qu'il voulait demeurer fidèle à Dieu. Il voulait demeurer fidèle à son poste à la porte du roi. Durant son service à la porte du roi, Mardochée ne savait pas que malgré que ses ennemis planifiaient contre quelque chose contre lui, Dieu préparait son élévation. Mardochée était à la porte du roi, ses ennemis complotaient contre lui pour le tuer, mais il est resté fidèle à la porte du roi et Dieu travaillait à sa faveur, Dieu travaillait à son élévation. J'aimerais te dire ce matin que un jour, ta fidélité et ton engagement seront honorés par Dieu. Un jour, Dieu va t'honorer. Reste fidèle, ton jour arrive. Comme Mardochée, ce que tu fais en secret va être reconnu. Et c'est Dieu qui va te le reconnaître. La Bible déclare que dans Esther chapitre 6, du verset 1 à 10, qu'une nuit, le roi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le roi, un jour, dit, non mais apportez-moi les registres des événements qui se sont passés dans mon pays. Apportez-moi les registres, je vais lire les registres. Et quand on fait apporter les registres, il va lire l'acte de fidélité que Mardochée a fait en sa faveur. Il y avait des actes de fidélité que Mardochée avait posés, qui avaient été consignés dans ce livre. Et le roi, en les lisant, mais il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on a fait à cette personne qui m'a fait du bien? Qu'est-ce qu'on a fait à cette personne? J'aimerais te dire ce matin qu'il y a des actes de fidélité que tu poses aujourd'hui qui peuvent certes ne pas avoir de suite immédiate en termes de récompense, mais ce sont des actes qui ne sont pas oubliés par Dieu. Autant marqué, il se souviendra de toi. Autant marqué, il se souviendra de toi. Ne soyons pas découragés parce que notre service est ignoré. Continuons à servir le Seigneur. Ne soyons pas découragés parce qu'on nous a dit, pendant qu'on servait le Seigneur, continue à le servir. Un jour, Dieu va se souvenir de toi. Dieu se souvient toujours des personnes qui sont fidèles à ce qu'ils font. Dieu s'est souvenu de Corneille et lui a permis d'être baptisé du Saint-Esprit parce que Corneille était fidèle à donner des aumônes, à bénir les gens. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est souvenu de Mardochée et l'a élevé dans ce pays en exil. Mais bien aimé, pour finir, j'aimerais te dire que la saison dans laquelle nous entrons, Dieu veut de plus en plus des hommes fidèles qui se lèvent pendant que Benjamin vient au piano. Dieu veut que des hommes fidèles se lèvent. Dieu veut que des hommes fidèles se lèvent. Il désire que nous fassions valoir nos talents et nos capacités dans sa maison pour que son œuvre avance. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Es-tu prêt à le servir? Es-tu prêt à être passionné pour lui? Es-tu prêt à mettre à la disposition des autres tes capacités, tes dons, ce que tu sais faire, ton sourire, ton zèle, ton enthousiasme, tes talents de musicien? Es-tu prêt à les mettre au service des autres? Es-tu prêt à mettre au service des autres ton expertise comptable? Es-tu prêt ce matin à servir le Seigneur? Sers le Seigneur, sois fidèle, reste à ton poste. Certainement, il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Il y a un chant que l'on chante en Afrique, que j'aime beaucoup, qui dit ceci. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Disons-le. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Nous voulons te servir, Seigneur, ce matin. Nous voulons nous livrer totalement à toi, nous consacrer à toi, Seigneur. Nous voulons que tu viennes régner sur nos vies, que tu viennes régner sur nos activités, que tu sois au centre, Seigneur, de tout ce que nous pouvons accomplir, Jésus. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas être de ceux qui cachent dans la terre parce qu'ils ont peur. Ceux qui cachent, Seigneur, dans la terre, ce qu'ils ont reçu. Seigneur, ce matin, donne-nous la capacité de faire valoir, de mettre au service, de fructifier ce que tu nous as donné, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin pour que tu fasses germer dans nos vies ce fruit merveilleux qu'est la fidélité. Ce fruit merveilleux qu'est la fidélité dans ton service. Oui, c'est vrai qu'on nous a sûrement frustrés. Oui, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas ce que nous faisons. Oui, c'est vrai, Seigneur. Mais ce matin, viens renouveler en nous un esprit bien disposé parce que nous voulons te servir. Je te sacrifierai à jamais mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Si vous voulez vous impliquer dans l'église, là je parle spécifiquement de l'église, même si le fait de servir Dieu va au-delà de l'église, si vous voulez vous impliquer à l'église, et que vous voulez donner votre expertise au service de Dieu, je suis à votre disposition pour que vous me donniez vos références, pour que vous me donniez votre nom, et on vous contactera. Si vous voulez vous impliquer à la vidéo, si vous voulez nous aider à faire la peinture, parce que nous voulons peinturer, nous voulons aider, nous voulons servir notre ville, nous voulons aider les collèges à faire de la peinture, à rendre beau cet espace, vous pouvez également donner votre nom. Servir Dieu, c'est bon. Si vous voulez servir Dieu pour donner des dons, Parce que mon épouse et plusieurs ici vont souvent donner des dons, vont souvent aider des gens à être bien en leur donnant de la nourriture, en leur donnant des fournitures pour les enfants. Si vous voulez servir dans ce secteur, vous pouvez également donner votre nom. Si vous voulez servir dans la louange, l'adoration, vous voulez donner de votre expertise dans le chant, dans la musique, vous venez également me voir et je vais me faire le plaisir de vous mettre dans un processus pour que vous puissiez servir Dieu. Mais bien aimé, ne restez pas assis. Ne soyez pas un chrétien de dimanche. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur dans l'église. Servez-le dans votre travail. Qu'il soit au centre de tout ce que vous faites. Prêchez sa parole autour de vous. Dites vraiment aux gens que Dieu les aime. Manifestez l'amour de Dieu à ceux qui sont autour de vous. Et certainement, vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est par ces mots que le culte de ce matin est clos. Est-ce qu'on peut prier pour la fin? J'aimerais vous recommander à la grâce de Dieu. J'aimerais également vous rappeler que pour des questions sanitaires, nous ne pouvons pas nous attrouper à un endroit dans les couloirs de l'école. Donc quand vous sortez directement, vous allez vivre la communion fraternelle dehors. Ce serait mieux pour des raisons sanitaires. Mais n'oubliez pas avant de partir de saluer un frère, de saluer une sœur, de faire un sourire, de faire un coucou. Nous voulons également ensemble communier avant de partir. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Je te prie, Seigneur, que cette parole ait un écho dans nos cœurs, qu'elle porte du fruit, qu'elle porte du fruit, que nous soyons comme ces arbres plantés près d'un courant d'eau et qui portent leurs fruits en sa saison. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.